catholique, et de, à la veille de la Première Guerre mondiale jusqu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, à la veille de la Première Guerre mondiale, un nouveau pape venait d'être élu, Benoît XIII, Benoît XV, pardon, qui était un pape pro-allemand, qui était tout à fait dans la ligne de ses prédécesseurs, pour lesquels la guerre était une occasion de ramener la Russie sous l'obédience romaine. Et cette politique vaticane qui dure jusqu'à nos jours est la cause de, fut la cause des, une des causes en tout cas, des deux guerres mondiales et aussi des problèmes des Balkans à l'heure actuelle. À l'époque de la, à la veille de la deuxième guerre, de la Première Guerre mondiale, ce qui était un, dirais-je, qui avait été forgé dans l'équilibre européen, c'était l'alliance franco-russe. La Russie et la France étaient liées par un acte, par un pacte de défense mutuelle. Et de ce fait, la politique des empires centraux, on avait ce qu'on appelait la triple entente. À cette alliance franco-russe, s'était jointe l'Angleterre, on appelait les trois puissances, donc les puissances de l'entente. Et en face, on avait la triple alliance. Les empires centraux, qui, pour faire face à cette alliance, avaient créé ce qu'on appelait la triplice, c'est-à-dire l'alliance entre l'Allemagne, l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois et l'Italie. Et le but de ces gens était évidemment de briser l'alliance franco-russe, qui était pour eux le point fort, n'est-ce pas, de cette, qui était pour eux une menace. Et la diplomatie vaticane abondait à fond dans leur sens. D'ailleurs, l'Italie, nous l'avons vu, faisait partie de cette alliance. Pour traiter de ces problèmes, le pape avait envoyé à Berlin un nonce, c'est-à-dire un ambassadeur du Saint-Siège, comme on l'appelle, porte le nom de nonce apostolique. Les nonces apostoliques sont donc les ambassadeurs, si vous voulez, du Vatican dans tous les pays du monde. Enfin, c'est du moins qui ont des relations diplomatiques avec le Vatican. Et le nonce apostolique de l'époque se nommait Monseigneur Pacelli, qui devait devenir pape, donc succéder ensuite à Pie XI, sous le nom de Pie XII. Et. Pendant toute la période de l'avant-guerre et de la guerre, Pacelli a donc été l'éminence grise du Vatican à Berlin et a tout fait justement pour que les empires centraux triomphent dans cette guerre. Malheureusement, pour eux, les empires centraux ont perdu le conflit, comme on le sait, et de ce fait, il y a eu alors un coup dur, très dur, pour le Vatican. Le Vatican a demandé à participer aux négociations de paix, au traité de Versailles. Cela lui a été refusé. Et il n'a pu empêcher, donc, notamment ce qui a été pour lui une véritable catastrophe, l'éclatement de l'Empire austro-hongrois, la disparition de l'Empire austro-hongrois au lendemain de la Première Guerre mondiale, qui a été morcelé en une multitude d'États indépendants. Tchécoslovaquie, Roumanie, Bulgarie, Yougoslavie, Albanie, etc., etc. Et par conséquent, il y a eu là une nouvelle donne dans laquelle, avec laquelle l'Église catholique a dû composer. Bon, il y avait aussi, bien sûr, une autre menace qui était née de cette Première Guerre mondiale. C'était que la Russie, bien loin de revenir sous l'obédience romaine, était devenu communiste au moment de la révolution de 1917 et par conséquent constituait une menace pour la foi catholique en Europe même. Et après la guerre, pour le Vatican, il y avait le feu. Et c'est la raison pour laquelle, a été constituée donc, au lendemain de la Première Guerre mondiale, la République de Weimar en Allemagne, le Vatican, par l'intermédiaire justement de Monseigneur Pacelli, s'est efforcé de reconstituer un grand parti catholique. Le lendemain de la guerre, c'était aussi le moment où, en Italie aussi, les choses tournaient mal. À la fin des années 20, est arrivée donc au pouvoir une nouvelle composante, le fascisme. Le fascisme italien conduit par Benito Mussolini. Benito Mussolini n'était pas spécialement un catholique, mais il n'était pas non plus hostile au catholicisme, prenant conscience quand même que le catholicisme, en Italie notamment, constituait une puissance avec laquelle il devait compter. Et Mussolini s'est assuré le soutien justement du Vatican. Enfin, soutien qui lui a été accordé d'autant plus que le régime mussoliniste ou mussolinien était un régime autoritaire qui était tout à fait dans le sens de ce que souhaitait le Vatican, qui avait la plus grande peur des démocraties. Aussi, il n'a pas été difficile de s'entendre entre le Vatican et Mussolini. Dès que Mussolini est arrivé, plutôt a s'est porté candidat, Pie XI, qui avait succédé entre-temps à Benoît XV, a demandé à tous les députés catholiques de voter en masse pour l'investiture de Mussolini. Donc, on peut dire que Mussolini a été porté au pouvoir par le Vatican. La même manœuvre se reproduira quelques années plus tard en Allemagne, cette fois-ci avec Hitler. Il est intéressant de constater que Hitler a toujours eu, du moins jusqu'au déclenchement de la guerre, beaucoup d'égards pour l'Église catholique. D'ailleurs, l'Église catholique était son modèle. Sa structure, sa hiérarchie, sa discipline le fascinaient, n'est-ce pas? Par exemple, le corps des SS était tout simplement basé sur le modèle des jésuites. Hein, c'était le pendant nazi des jésuites. Et à toutes les cérémonies, les représentants du Vatican étaient invités et avaient droit à des honneurs tout à fait particuliers. Même chose dans l'Italie fasciste, évidemment. Et c'est alors que, reconnaissant, Mussolini donc a décidé d'ouvrir avec le Vatican des négociations pour régler le problème épineux de Rome, finalement, des États du Pape. Et donc, ont eu lieu les accords de Latran, dont nous avons parlé la dernière fois, à l'issue desquels, donc, un minuscule État indépendant a été créé autour de la Cité du Vatican, avec d'ailleurs, je crois, aussi un autre endroit extraterritorial qui est Castel Gandolfo, la résidence d'été des papes. Et cette entité lilliputienne avait toutes les prérogatives d'un État indépendant. Et pour mieux faire digérer la pilule, Mussolini, l'État italien, donc, faisait don au Vatican d'une rente de 250 milliards de lire italiennes de l'époque, c'était considérable, qui lui permettait évidemment de voir venir l'avenir avec beaucoup de sérénité et sur lesquels évidemment le Vatican vit encore aujourd'hui, boursicotant avec ça évidemment d'une manière tout à fait avisé, si j'ose dire, n'hésitant pas de temps en temps d'ailleurs à faire défaut. Vous savez comment c'est grâce à ces subsides, le Vatican a créé une banque spéciale qui s'appelle la Banque du Saint-Esprit. Et un de ces grands argentiers a été pris la main dans le sac à fabriquer des faux titres il y a quelques années, n'est-ce pas? Un petit peu avant la mort de Paul VI. Bien, donc, ces accords de Latran de 1929 ont abouti aussi à un concordat qui comprenait aussi comme clause le fait que le catholicisme en Italie redevenait religion d'État, ce qu'il n'avait cessé d'être, et puis aussi, en échange de ces échanges de bons procédés, le pape approuvait l'expédition d'Éthiopie, la malheureuse expédition d'Éthiopie qui eut lieu quelques années plus tard, où le fascisme italien essayait aussi d'obtenir là-bas un certain nombre de colonies. Dans les pays voisins, le catholicisme a essayé aussi de pousser ses pions. Et notamment, c'était l'époque où le nazisme montait en Allemagne Et le catholicisme a vu l'occasion de rééditer avec le nazisme ce qu'il a venu de réussir avec le fascisme. Le Vatican espérait aussi réussir la même manœuvre en Belgique, qui elle aussi connaissait des troubles à cette époque-là, et se créa alors un parti catholique fascisant. Enfin, fascisant, c'est pas tout à fait le mot, on appelle fasciste aujourd'hui tous ces mouvements de l'extrême droite, mais le fascisme au sens strict du terme, c'est tout simplement le mouvement d'extrême droite italien, n'est-ce pas ? Qualifier le nazisme de fascisme n'est pas historiquement exact. Enfin, disons des mouvements d'extrême droite autoritaires de cette manière-là, et s'est créé donc sous la direction en Belgique d'un certain Léon Desgrelles un mouvement qui s'appelait Christus Rex, le Christ roi. Christ roi. On avait quelque chose d'un peu semblable aussi en France, avec la création d'un parti d'extrême droite qui a pris le nom d'abord de Camelot du Roi. Et qu'il aussi envisageait la destitution de la République, l'abolition de la République, une restauration de la monarchie ou de toute façon, à défaut, l'institution d'un pouvoir autoritaire de type fasciste. Bon, c'est aussi l'époque, l'avant-guerre, l'entre-deux-guerres plus exactement, c'est aussi l'époque des troubles en Espagne, où s'était instaurée une république au départ modérée, puis qui, par la force des choses, s'est radicalisée de plus en plus à cause d'une agitation, cette fois-ci d'extrême gauche. Et après la Première Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale s'est terminée par la création donc de la Russie bolchevique, de l'Union soviétique. Lénine est mort quelques années après la fin de la Première Guerre mondiale. Lui a succédé Staline, qui a créé ce qu'on appelle le Comintern, c'est-à-dire l'international communiste. Et sa création de ce Comintern a eu des répercussions très profondes en Espagne. On a vu notamment dans le nord de la péninsule, dans les Asturies, des révoltes d'ouvriers qui étaient télécommandés par Moscou. Le pouvoir a dû faire donner la troupe. Il y a eu des morts. La situation de l'Espagne s'est radicalisée. Il y a eu un bipolarisme qui s'est créé, une extrême gauche qui s'est radicalisée non seulement sous l'influence du Comintern et de Moscou, mais aussi sous l'influence des deux partis encore plus extrémistes que Staline, qui avaient été décapités par ce même Staline, notamment le trotskisme. Et puis l'anarchisme. Il y avait des mouvements anarchistes extrêmement virulents en Espagne qui ont conduit la République espagnole dans une véritable dérive. Le pays est devenu rapidement ingouvernable. C'était grève sur grève, révolte sur révolte. Il y avait des massacres de prêtres, de nonnes, etc. Et alors, évidemment, l'armée, qui était toujours le refuge de l'ordre en Espagne, comme d'ailleurs dans les pays d'Amérique latine, s'est aussi radicalisé avec évidemment tous ceux qui avaient peur de cette dérive gauchisante. Et alors, se sont créés des mouvements alors semblables à ceux que l'on trouvait dans les pays, l'Italie notamment. L'Italie, à ce moment-là, fasciste, est devenue le modèle justement de l'extrême droite espagnole, de la même manière que la Russie était le modèle de l'extrême gauche. Et bien que les démocraties aient essayé de jouer un rôle modérateur dans cette affaire, notamment justement la France et l'Angleterre, qui soutenaient une république modérée, qui essayaient de ramener justement la République espagnole dans une voie modérée, ils n'ont pas pu empêcher l'émergence justement, par le contact avec les Italiens notamment, de partis d'extrême droite en Espagne, notamment la Falange. La Falange, qui recrutait essentiellement dans les milieux militaires, et c'est alors que la situation se dégradait, que l'Espagne sombrait dans l'anarchie la plus totale, que le général en chef de la garnison des Canaries, qui se nommait Francisco Franco y Baimontes, a pris l'initiative d'un de ses pronunciamientos dont l'armée dans les pays hispaniques était coutumière. Et donc, il a entrepris donc un voyage surprise des Canaries au Maroc espagnol. Il a donc déclaré que la République était abolie depuis l'Espagne, depuis le Maroc, et que donc il prenait le pouvoir. Avec les troupes marocaines en particulier, il a donc traversé le détroit de Gibraltar, s'est emparé de l'Andalousie et s'est mis en marche vers Madrid. La guerre civile, la terrible guerre civile qui a duré 3 ans, donc qui a ensanglanté l'Espagne, fait 1 million de morts, était déclenchée. Donc ici, 1 million de morts, c'était la première guerre moderne, au cours de laquelle donc les deux parties qui devaient s'affronter ensuite sur les champs de bataille européens ont essayé leur tactique, n'est-ce pas? Bon, la République a fait appel aux démocraties, qui ont envoyé une aide diplomatique, mais peu d'aide militaire, pas d'aide militaire, si ce n'est des armes, etc. Bon, des volontaires, les volontaires de l'étranger qui se sont portés pour combattre sur le front, mais qui étaient en général souvent des gens très marqués à gauche, voire à l'extrême gauche, parmi André Malraux, vous connaissez évidemment tout ça. Et puis, surtout de la Russie qui a envoyé des troupes, des armes, etc. Devant cette situation, la droite espagnole a fait appel aux Italiens, puis aux Allemands. La fameuse Légion Condor, qui a employé les techniques de bombardement qui devaient ensuite être rééditées sur Londres. Enfin, vous connaissez toute cette histoire-là. Et donc, le Vatican, évidemment, a appuyé à fond le franquisme. Le franquisme qui, au terme de cette lutte terrible, a fini par triompher. Et a installé donc un pouvoir de type fascisant en Espagne, où l'Église catholique avait un rôle prépondérant. L'Église catholique était religion d'État, elle était liée au Vatican par un concordat, elle était la seule religion autorisée, et une véritable persécution des non-catholiques, y compris persécution sanglante, a eu lieu à l'occasion de la guerre civile d'une part, mais aussi après la guerre civile. Dans les purges qui ont suivi la guerre civile, nombre de protestants ont été froidement assassinés sous prétexte qu'ils appartenaient à la République, ce qui n'était pas toujours faux, dans la mesure où, c'est vrai, les protestants espagnols se sentaient plus proches d'une République qui, même dans ses excès, avait quand même un certain idéal démocratique, et s'était quand même rééquilibré dans les derniers mois de la guerre, notamment sous la direction du gouvernement du docteur Negrin, et qui n'avait évidemment aucune sympathie pour un pouvoir qui appuyait à tel point justement l'Église catholique. Donc l'Église catholique était seule religion autorisée. L'État espagnol était un État catholique, c'était dans la Constitution ou ce qui en tenait lieu de cette manière. Et l'Église catholique était subventionnée par l'État dans des proportions absolument effarantes. Et ce fut ainsi jusqu'à la mort de Franco en 1975-1976. Bon, avec le temps, évidemment, le régime s'était un peu assoupli. En 1967, sous l'influence des Américains, parce qu'après la guerre, évidemment, la Deuxième Guerre mondiale, l'Espagne avait voulu se rapprocher de l'OTAN, voulait même faire partie de l'OTAN, mais son régime dictatorial faisait que l'OTAN n'avait pas voulu de lui, mais il y a eu quand même des accords spéciaux avec les Américains, des bases militaires avaient été accordées par Franco aux Américains dans la péninsule, et petit à petit, deux éléments avaient poussé à la libéralisation du régime. Premièrement, le tourisme. Il est évident que quand l'Espagne s'est ouverte au tourisme, les touristes viennent là, c'est pour jouir d'une certaine liberté. Et si on veut favoriser le tourisme, on ne peut pas attacher un policier au basque de chaque touriste qui visite le pays. Et puis quand les autochtones voient comment vivent les touristes, ils ont envie de faire comme eux. Donc il y a eu un vent de libéralisation qui est né à partir des années 60, disons, fin des années... Oui, c'est ça, à partir des années 60, grosso modo, à ce niveau-là. Bon, deuxième élément, ça a été justement l'alliance avec les États-Unis. Et les États-Unis ont accepté d'intégrer l'Espagne dans une alliance qui ne disait pas son nom, à condition qu'il y ait une certaine libéralisation. Il y a eu une espèce de loi de libéralisation de la liberté religieuse qui a été votée par les Cortés en 1967, bon, qui étaient tout à fait des cosmétiques sur le plan pratique pour les protestants espagnols, ça n'a pas changé grand-chose. Mais officiellement, il y avait une certaine liberté bon, il y avait une certaine tolérance. Enfin bref, c'était comme on pourrait dire moins pire que ça n'avait été quoi dans les lendemains qui avaient suivi les deux guerres mondiales. Disons quand même à des charges de Franco, un petit point quand même à mettre à son actif, c'est que pendant la guerre mondiale, Franco, qui a refusé de participer au combat aux côtés d'Hitler, dont il était officiellement l'allié, et il a réussi ce tour de force de le faire languir en lui laissant entendre qu'il était sur le point d'entrer en guerre, et puis en fait n'est jamais entré en guerre. Et au contraire, surtout quand il s'est rendu compte que ça tournait mal pour les empires, l'empire hitlérien, mais qui a aussi refusé de livrer ses juifs, les quelques juifs qu'il avait. Et qui plus est, a essayé de sauver les maranes de Thessalonique en particulier. Ça, c'est un épisode que l'on redécouvre maintenant. À Thessalonique, il y avait les descendants des expulsés d'Espagne, qui étaient extrêmement nombreux. L'essentiel de la population de la ville était juive. On y parlait le vieil espagnol, le ladino. Et lorsque la persécution s'est abattue sur la Grèce, l'ambassadeur d'Espagne, comme les ambassadeurs de France d'ailleurs, l'ambassadeur d'Espagne en France, a fait son possible pour donner des passeports espagnols à des juifs français. Et beaucoup de juifs, un certain nombre de juifs français qui pouvaient plus ou moins faire remonter leur origine aux expulsés de 1492, ont pu obtenir comme ça des passeports espagnols qui leur ont permis d'être sauvés. Mais c'était surtout en Grèce, évidemment, que le nombre des exilés, des maranes, enfin des descendants des séfarades, du moins, étaient les plus nombreux. Et l'ambassadeur d'Espagne s'est rendu compte qu'une rafle des Juifs de Grèce était imminente, il a obtenu de Madrid l'autorisation de donner la nationalité espagnole à tous les Juifs qui se trouvaient en Grèce. Et du jour au lendemain, tous les Juifs de Grèce ont reçu la nationalité espagnole. Donc ils étaient sous la protection du gouvernement espagnol. Alors donc le gouvernement allemand a pris acte et une flotte de bateaux est venue d'Espagne pour transporter les Juifs de Thessalonique et de Grèce en Espagne. Et la nuit qui précédait cet embarquement des Juifs, les Allemands, manquant à leur parole, ont raflé tous les Juifs et les ont gazés à Auschwitz. Mais le gouvernement espagnol a fait son possible pour essayer de les sauver. Bon, on sait aussi que beaucoup de filières d'évasion de l'Europe occupée, notamment du sud de l'Europe, aboutissaient en Espagne. Et le gouvernement espagnol a accepté d'héberger tous les Juifs qui trouvaient refuge en Espagne étaient protégés. Le gouvernement espagnol n'en a livré aucun à Hitler. Ça, c'est quand même à mettre à l'actif de Franco, dont on sait à coup sûr qu'il était lui-même descendant de Juifs. Franco, c'est un nom juif typique des Juifs d'Espagne. Un Franco, c'est-à-dire un affranchi, un esclave affranchi. Et bien que Franco n'en faisait pas état, évidemment, tout son entourage savait qu'il était d'origine juive, d'origine marat. Est-ce que ça a joué? Enfin, on ne sait pas, on ne sait pas trop. Donc, voilà ce qui s'est passé en Espagne. Maintenant, revenons à l'Allemagne, où les Pacelli étaient aussi toujours nonces après la guerre mondiale, et ils voulaient anéantir l'hégémonie prussienne sur l'Allemagne, la Prusse étant majoritairement protestante. L'Allemagne était grosso modo composée de deux religions. Le nord était plutôt protestant, le sud, la Bavière, etc., était catholique. Or, Hitler, bien que n'étant pas catholique du tout, bien sûr, mais il était originaire de Bavière et il était quand même marqué par l'influence catholique. D'ailleurs, peut-être que son antisémitisme avait aussi à voir quelque chose avec ses origines. Et le nazisme a été au départ un phénomène de l'Allemagne méridionale. C'est en Bavière, donc, que le nazisme est né essentiellement. Parmi l'entourage, les grands barons du nazisme, Goering était bavarois, Goebbels était rhénan, donc du sud de l'Allemagne également. Et dès qu'il est arrivé au pouvoir, Hitler a commencé par affirmer haut et fort que ses principes étaient parfaitement compatibles avec ceux de l'Église romaine. Entre-temps, la République de Weimar, elle avait rétabli le principe de la séparation de l'Église et de l'État, ce qui ne faisait pas l'affaire évidemment du Vatican. Et en 1932, le Zentrum, le parti catholique, avait réussi à porter au pouvoir un chancelier, donc, qui était équivalent de son premier ministre, qui se nommait Franz von Papen, et qui était un catholique. Un catholique, on pourrait dire, convaincu, qui était pratiquement aux ordres du Vatican. Le pays était devenu de plus en plus ingouvernable dans ces années-là, n'est-ce pas ? Et il était évident que le pays sombrait dans l'anarchie. Finalement, c'était un petit peu... L'anarchie a toujours été le lit des fascismes. C'était le cas en Italie, c'était le cas en Espagne, on l'a vu il y a un instant. Et ce fut aussi le cas en Allemagne. Les Rouges essayaient de prendre le pouvoir sur justement cette déliquescence de l'État. Des mouvements divers aussi il y avait des forces paramilitaires, des rouges, des noirs, etc., qui s'affrontaient dans des véritables batailles rangées. Et donc Hitler avait créé aussi son parti, le Parti National Socialiste, en abrégé le Parti Nazi, dont le programme, évidemment, prévoyait l'élimination des Juifs, qui était la cause de la Première Guerre mondiale, de la défaite de l'Allemagne, qui avait poignardé l'Allemagne dans le dos, soi-disant, n'est-ce pas, et qui devait donc être éliminé avant que l'Allemagne puisse retrouver sa grandeur. Donc, il y avait à nouveau en Allemagne deux grandes factions qui s'affrontaient militairement. Le national-socialisme et les Rouges, le Parti communiste, et les partis socialistes qui gravitaient autour. Évidemment, le Vatican voyait d'un très mauvais œil la possibilité de voir à nouveau un pouvoir rouge s'installer à ses portes, finalement. Là, c'était l'Allemagne, c'était la porte de l'Italie, c'était le cœur de l'Europe, c'était impensable. Et à son point de vue, le Vatican a misé sur le moindre mal. Le moindre mal, pour lui, était donc... Le Vatican a bien compris que c'était ou les Rouges ou Hitler. Et il a misé sur Hitler. Comme il avait misé sur Franco en Espagne. Enfin, il le fera quelques années plus tard, puisque Franco, ce sera plus tard. Et comme il avait fait quelques années plus tôt pour l'Italie, parce que l'Italie, c'était le même problème. Mussolini avait d'abord été communiste, d'ailleurs, avant de se retourner complètement. Et Mussolini était apparu aux yeux du Vatican comme celui qui les sauvait des Rouges. Et donc, von Papen, quand il est arrivé chancelier, a reçu l'ordre du Vatican de préparer l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Et c'est ainsi qu'une année plus tard, von Papen démissionnait, provoquait des nouvelles élections générales, dont on était sûr que de ces élections allait arriver Hitler au pouvoir. Et en 1933, donc, Hitler succédait à von Papen. Mais il prenait immédiatement von Papen dans son cabinet. Et von Papen, catholique convaincu, n'est-ce pas, sera membre du gouvernement nazi jusqu'à la fin. Et il échappera à la corde à Nuremberg, simplement grâce aux pressions du Vatican. C'est le Vatican qui lui épargnera cela, mais il l'aurait mérité comme les autres. Donc, le Vatican donne l'ordre aux catholiques de ne plus résister au nazisme. Et l'Église catholique d'Allemagne devient de ce fait un organisme politico-religieux. Il faut dire que Pacelli aussi avait des sympathies personnelles pour Hitler, donc... Pie XII, et ça explique peut-être aussi en partie son attitude pendant la Première Guerre mondiale. Pour Pacelli, l'Europe ne pourra retrouver son équilibre que grâce à l'hégémonie de l'Allemagne. Il faut donc que l'Allemagne redevienne forte. Il faut empêcher, dans cette Allemagne forte, l'hégémonie de la Prusse protestante, et donc préparer également l'Anschluss. L'Anschluss, c'est-à-dire l'union avec l'Autriche catholique, n'est-ce pas, qui va apporter le poids de sa population catholique au Grand Reich. L'Anschluss a été une trahison terrible pour ceux qui l'ont vécu en 1938, n'est-ce pas. Et d'ailleurs, c'est une violation de tous les traités. Il était entendu, au traité de Versailles, n'est-ce pas, que l'Allemagne et l'Autriche ne pouvaient pas former un seul État. Et donc, en faisant assassiner traîtreusement le chancelier Dollfuss, Hitler donc a provoqué des troubles grâce à sa cinquième colonne en Autriche, et un nouveau gouvernement est arrivé au pouvoir qui a invité les nazis à venir donc à Vienne, et donc qui a voté démocratiquement, si j'ose dire, l'union de l'Autriche avec l'Allemagne. Ça a été le premier pas vers la guerre, évidemment. Von Papen a négocié, par contre, aussi bien pour l'Autriche que pour l'Allemagne, un concordat avec le Vatican au nom d'Hitler. Ce qui est tout à fait curieux, de voir dans cet État nazi l'Église catholique jouir d'une position privilégiée, au même titre que ce que nous trouvons en Espagne, par exemple, ou que nous trouvons en Italie, à peu près à la même époque. Et le Zentrum, le parti du centre catholique, devient le pivot sur lequel Hitler s'appuie pour arriver au pouvoir. Le nazisme, évidemment, comme l'Église catholique, rejette la démocratie comme principe d'autorité, et von Papen, qui, quand il arrive au pouvoir, va aussi mettre fin, éliminer tous les ministres prussiens, donne les pleins pouvoirs à Hitler le 26 mars 1933, avec une majorité des deux tiers des votants. Von Papen se voit nommé immédiatement commissaire général pour la Prusse, justement chargé, lui, l'anti-prussien, de mettre la Prusse au pas. Si le Zentrum s'était opposé au plein pouvoir, jamais Hitler ne les aurait eus. Mais justement, Von Papen donne ordre aux députés du Zentrum de voter les pleins pouvoirs à Hitler, vous savez, après le fameux incendie du Reichstag qui a été manigancé de toutes pièces par Hitler, justement, pour abolir la République. Est-ce à dire que le Vatican était 100% d'accord avec Hitler? Sûrement pas. Et il est vrai que Pie XII a dénoncé l'idéologie hitlérienne comme anti-Dieu, en quelque sorte. Les catholiques actuels, évidemment, le font remarquer d'une manière très forte, mais si le Vatican était opposé au nazisme en tant qu'idéologie, il appuyait le nazisme sur le plan politique. C'est toute l'ambiguïté, justement, de la politique vaticane, qu'on trouve d'ailleurs très souvent. Le but de l'alliance avec le Vatican était aussi de neutraliser les libéraux, pour permettre à l'Allemagne de retrouver sa grandeur. Le concordat prévoyait que le Vatican pouvait avoir un droit de veto le pouvoir nazi pouvait avoir un droit de veto sur la nomination des évêques, ce dont il ne se privera pas. Les évêques, selon le concordat, étaient aussi amenés à prêter serment à Hitler. Le pape avait accepté ça. Et ce qui est remarquable, c'est que jusqu'au 8 mai 1945, c'est-à-dire jusqu'à l'effondrement de l'Allemagne, Hitler s'acquittera scrupuleusement de ses engagements vis-à-vis du Vatican. Le concordat sera respecté à la lettre du côté allemand. Après 1945, le nouveau pouvoir allemand, le SDU, je ne sais pas comment c'est les sigles d'un parti, je ne sais pas comment c'est. Enfin, c'est ah voilà, chrétien démocrate. Confirme la validité du concordat. Donc, le concordat qui avait été conclu par Hitler est resté en vigueur après la guerre en Allemagne. C'est quand même à noter aussi. Ça. À noter aussi qu'en 1954, un apologète du nazisme a été nommé cardinal évêque de Munich, 1954, 10 ans après la guerre, sans égard à son passé nazi. En 1933 aussi, le premier ministre français de l'époque, Pierre Laval, qui était aussi pro-nazi, pourrait-on dire, enfin qu'il est devenu après du moins, a reçu une haute dignité romaine, tant il est vrai que la politique du Vatican était habile et subtile. Le Vatican a toujours eu une préférence pour la politique allemande, jusqu'à nos jours d'ailleurs. C'est le vieux rêve du Saint-Empire romain germanique qui est toujours resté une des constantes de la politique vaticane. Et il y a eu donc un double jeu du Vatican vis-à-vis du nazisme, on pourrait dire une véritable hypocrisie qui commence à lui revenir en boomerang aujourd'hui, parce qu'on commence à ouvrir les archives du Vatican et il y a actuellement un conflit énorme entre l'État d'Israël et le Vatican parce que une commission qui avait été créée de spécialistes catholiques et juifs pour étudier, vous savez, les archives du Vatican pendant la guerre, vient de se voir fermer les archives du Vatican. Et alors, pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que le Vatican a caché pour qu'on interdise aux savants juifs d'avoir accès aux archives du Vatican qui touchent à la guerre ? Le Vatican a avalé aussi des couleuvres à cette époque-là, notamment la dissolution des mouvements de jeunesse catholique en Allemagne. Ça valait bien ça, puisque c'était aussi une manière de prouver qu'on n'était pas proche des démocraties. Le but du Vatican, c'était un empire universel, et il voyait dans l'Allemagne le moyen, justement, de créer cet empire universel. Si l'Allemagne gagnait la guerre, et donc créer un Reich qui allait durer 1000 ans, eh bien, le Vatican y aurait, pensait-il, un rôle prépondérant. D'où justement les droites, les différentes droites qui s'étaient créées entre les deux guerres dans les différents pays d'Europe. Alors, le Christus Rex de Belgique, les Croix Fléchées en Hongrie avec le régent Horthy, les camelots du roi en France, plus tard ensuite qui deviendront les pétainistes, les phalangistes en Espagne, les fascistes en Italie, même un petit parti nazi avait été créé en Angleterre, n'est-ce pas, à cette époque-là, et un grand parti nazi aux États-Unis, il ne faut pas l'oublier, ça. Eh bien, ces différentes droites allait être l'instrument politico-militaire du catholicisme qui voyait venir la Deuxième Guerre mondiale et qui voyait un moyen d'accomplir ce qu'elle avait loupé, finalement, au moment de la Première Guerre mondiale. Et c'est ainsi que, dès le 3 mars 1937, c'est-à-dire en pleine guerre civile, le Vatican reconnaît le régime du général Franco, alors qu'il n'était pas encore au pouvoir et que la République était encore officiellement au pouvoir en Espagne. Immédiatement, les évêques catholiques dénoncent les 13 erreurs qui sont celles du gouvernement actuel, dont le protestantisme. Le protestantisme est noté parmi les 13 erreurs à combattre. L'État doit proclamer, disent les évêques, que l'Église catholique, la religion catholique, est la seule religion qui peut être professée en Espagne, ce que fera le pouvoir au lendemain de la guerre. Et l'Église demande à Franco de museler la presse et annonce et déclare que le libéralisme et la démocratie sont un péché grave. Ça, l'Église catholique ne peut pas le nier. Les évêques espagnols ont fait ce type de déclaration. En Belgique, les catholiques aussi s'opposent à la démocratie. Le Christ-Roi, les rexistes, comme on les appelle, s'appuie sur des mouvements de jeunesse, l'Action catholique d'une part, puis la JOC, Jeunesse ouvrière catholique belge. Et l'implication des catholiques belges sera telle que Léon Desgrelle partira lui-même à la tête de volontaires pour combattre sur le front de l'Est, donc aux côtés des nazis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le 13 octobre 1931, les rexistes créent un parti qui s'appelle l'Ordre Nouveau, très intéressant, qui est un ordre catholique, bien entendu, ça va de soi. Après la guerre, évidemment, Léon Desgrelle sera considéré comme criminel de guerre et recherché donc comme tel, et il va se réfugier en Espagne, où il sera accueilli par Franco comme nombre de ses pareils. Et bien entendu, dès que la Belgique est envahie, eh bien, les partis rexistes, et dont Léon Desgrelle en premier, deviennent de véritables collaborateurs, comme le sera Pétain en France. Mais aux États-Unis, il y a 30 millions de catholiques, notamment 5 millions d'Irlandais, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, et le fer de lance de l'action catholique aux États-Unis, ce sont les jésuites. Les jésuites qui ont des sympathies hitlériennes, et les catholiques américains vont être, pendant cette période, isolationnistes. Ça veut dire qu'ils vont s'opposer à l'entrée en guerre des États-Unis aux côtés des démocraties. Il faudra attendre Pearl Harbor pour que cette opposition lâche. Mais les catholiques étaient parmi les plus farouches adversaire de l'entrée en guerre des États-Unis aux côtés des démocraties. Après la guerre, il y aura aux États-Unis aussi une véritable psychose qui va se manifester pendant les années 50 sous la direction d'un sénateur catholique qui se nomme McCarthy, qu'on appelait le McCarthyisme. Et le sénateur McCarthy voulait que l'on fouille le passé de tous les officiels, les parlementaires, les hommes politiques, les savants, les gens de la haute administration, et que s'il y avait en quelque sorte dans leur passé le moindre soupçon de sympathie pro-communiste, ces gens-là soient éliminés de leur pouvoir, quoi. Et alors, il y a eu une véritable chasse aux sorcières qui avait à son origine aussi le pouvoir, enfin le pouvoir des catholiques aux États-Unis. À côté de McCarthy, on trouvait le cardinal primat des États-Unis, qui était archevêque de New York, se nommait le cardinal Spellman, qui était d'ailleurs l'oncle par alliance de Madame Atoun. Son mari était un neveu du cardinal Spellman qui s'est converti au judaïsme. C'est assez cocasse. Bon. Et qui est donc, lui, était proche de tout ce mouvement isolationniste et qui a élaboré avec Pie XII ce que devait être la politique américaine. Donc il y a eu là une ingérence intolérable du Vatican dans la politique américaine jusqu'en 1941. En Autriche, il y avait donc eu l'Anschluss, dont nous avons parlé il y a quelques instants, qui a été manigancé, si j'ose dire, par un super cardinal, qui était donc cardinal de Vienne, qui s'appelait le cardinal Initzer, et qui était un farouche partisan de l'Anschluss, qui a trempé dans le complot qui a vu en 1933 l'élimination, enfin dès 1933 le complot a pris forme pour aboutir en 1938 à l'élimination du chancelier Dollfuss, qui a été physiquement éliminé. Donc c'était le 26 juillet 1936. Après avoir eu contact avec le von Papen pour mettre tout ça évidemment au point. Et en 1938, donc les troupes allemandes ont envahi l'Autriche. Alors, l'Anschluss était aussi quelque chose qui était très, très mal vu par Mussolini. Mussolini, qui était en principe l'allié d'Hitler. Il était le modèle d'Hitler, d'ailleurs, parce qu'il était plus ancien que lui au pouvoir, qui a été ensuite, évidemment, surpassé par son élève, son disciple. Mais au début, l'Anschluss était quelque chose dont Mussolini ne voulait pas entendre parler. Pourquoi ? D'abord parce que l'Autriche était à ses frontières nord. Et deuxièmement, si se crée sur sa frontière nord un immense État, l'Italie ne ferait pas le poids vis-à-vis de cette nouvelle entité, ce nouveau Reich qui allait ainsi naître. Et lorsqu'il a été question de l'Anschluss et que le chancelier Dollfuss a été assassiné, Mussolini a mobilisé ses forces et les a postées sur l'école tyrolienne qui permettait l'accès donc aux vallées du nord de l'Italie, quoi. Donc on a été à deux doigts de la guerre entre l'Italie et Hitler. Et qui a résolu le pouvoir ? Pie XII. Pie XII a convaincu Mussolini d'accepter l'Anschluss. Et donc, les choses ainsi se sont faites. D'ailleurs, Mussolini a eu tort. Les catholiques autrichiens étaient en général hostiles à l'Anschluss. Et c'est le cardinal Initzer qui les a convaincus aussi de se rallier à l'Anschluss. Donc voyez-vous, là, il y a eu vraiment des choses tout à fait étonnantes. En Slovaquie, il y a eu aussi le même type d'action. Vous savez, la Tchécoslovaquie a été des abcès de fixation des crises qui ont mené à la Deuxième Guerre mondiale, puisque dans le quadrilatère bohémien, qui lui était en majorité protestant, c'est-à-dire la Tchéquie, si vous voulez, il y avait d'importantes minorités allemandes, qu'on appelait les Sudètes. Et bon, c'est un petit peu. Sharon vient de comparer sa situation à celle de la Tchécoslovaquie de cette époque-là, c'est tout à fait exact. Ces importantes minorités n'étaient que des minorités. Mais Hitler réclamait ses Sudètes. Et il en faisait un casus belli. Il réclamait donc un démantèlement de la Tchécoslovaquie pour que la région des Sudètes, où les Allemands étaient minoritaires, soit rattachée au Reich. Donc la majorité tchèque n'avait qu'à se taire et a accepté de devenir minorité cette fois-ci dans le Reich allemand. Bon, vous savez que la crise des Sudètes a été à deux doigts de conduire à la Deuxième Guerre mondiale. Et que, alors que déjà les troupes franco-britanniques étaient mobilisées, ou commençaient à se mobiliser plus exactement, Mussolini, justement, encore lui, donc suivez mon regard, qui était derrière Mussolini, a convoqué à Munich une conférence de la paix pour essayer de résoudre le problème pacifiquement. Et c'est ainsi que se sont rassemblés, donc à Munich, les quatre grands de l'époque, Hitler, Mussolini, Chamberlain pour l'Angleterre et Édouard Daladier pour la France. Enfin, président du Conseil à cette époque-là, s'appelait pas Premier ministre de la France. Et finalement, à Munich, ça a été la capitulation sans condition des Alliés. Des Franco-Anglais ont accepté le démantèlement de la Tchécoslovaquie. Et pensant, comme l'a dit Churchill, qu'en sacrifiant l'honneur, ils éviteraient la guerre, et ils ont eu le déshonneur et ils ont eu la guerre. A dit Churchill. En même temps, c'était le démembrement de la Tchécoslovaquie parce que la Slovaquie était en majorité catholique et il a donc fallu que la Slovaquie devienne indépendante. Et devinez qui est devenu président de la République de Slovaquie? Un prélat, Monseigneur Tissot, qui a eu d'ailleurs le grand honneur d'être le premier ecclésiastique à la fin de la guerre à se balancer au bout d'une corde. Pour collaboration, un petit qui s'est séparé de la Tchécoslovaquie pour des raisons religieuses, sous l'inspiration du Vatican. La politique continue de la même manière. Et donc l'évêque Tissot a reçu l'appui des Allemands pour créer une république qui a été proclamée le 19 mars 1939, dans laquelle les protestants ont été persécutés, comme par hasard. Comme les juifs d'ailleurs. Bien, en Pologne, les choses évidemment étaient beaucoup plus simples, puisque la Pologne était toujours une puissance catholique de premier ordre. Et c'est ainsi que le 12 mars 1939, le cardinal Pacelli, nonce apostolique à Berlin, est devenu pape, succédant à Pie XI qui venait de mourir quelques jours plus tôt. Il faut dire que le sacré collège, ça veut dire le corps des évêques qui élit le pape, avait demandé que l'on élise un pape pro-allemand. On ne pouvait pas trouver pape plus pro-allemand que ne l'était Monseigneur Pacelli, qui était d'ailleurs proche des jésuites et qui travaillait dans ces questions politiques, n'est-ce pas, en étroite collaboration avec eux. Pie XII s'est entouré d'Allemands, de prélats allemands parmi ses proches collaborateurs, pensant qu'il pourrait reconstituer justement ce grand empire romain germanique. Et en 1943, malgré les supplications qui avaient été adressées même au sein de son Église, Pie XII a refusé de condamner les camps de la mort nazie, ce qui est une tâche aujourd'hui indélébile sur l'Église catholique et qui fait problème jusqu'à aujourd'hui. Et même par rapport à la Pologne, quand la Pologne a été dépecée, vous savez ce qui s'est produit. Donc en 1939, quand la guerre était sur le point d'éclater, la France avait un pacte de non-agression, la France-Angleterre avait un pacte de non-agression avec la Pologne. Bon, après la Tchécoslovaquie, Hitler avait juré ses grands dieux que son appétit était satisfait et qu'il n'avait plus d'autres ambitions. Mais il y avait une des aberrations du traité de Versailles, qui avait prévu qu'il y avait dans la région de Gdansk actuelle, n'est-ce pas, où se trouvait aussi une colonie allemande importante, finalement, Gdansk serait rattaché à l'Allemagne, à la République de Weimar. Et pour rattacher Gdansk, qui avait retrouvé son nom allemand de Danzig à cette époque-là, au reste de l'Allemagne, il y avait un couloir, un petit peu comme le corridor de Jérusalem. C'est pour ça cette histoire de corridor. Vous savez, c'est des histoires de droit de passage. Ça, c'est toujours des casse-têtes. Donc, il y avait un couloir qui reliait Danzig à l'Allemagne. Et Hitler a prétendu que ce n'était pas normal, qu'il fallait que Danzig soit rattaché au Reich. Bon, il a refait le coup de la Tchécoslovaquie, si vous voulez. Et donc, là... il prétendait que ses convois étaient attaqués quand il rejoignait Danzig, que Danzig étouffait, qu'il fallait de l'air, quoi. Alors, il a menacé le gouvernement polonais d'action militaire si les Polonais ne cédaient pas à ses ultimatums. Les Polonais qui avaient des accords militaires avec la France et l'Angleterre se sont tournés vers leurs alliés en disant « Êtes-vous prêts à... avoir en quelque sorte tenir vos engagements militaires. » Bon, les franco-anglais comprenaient que là, Hitler les avait joués au moment de la Tchécoslovaquie et n'était plus prêt à se laisser berner de la même manière pour la Pologne. Mais il y avait le problème de la Russie. Quelle allait être l'attitude de la Russie communiste en cas justement d'action militaire des puissances des démocraties, c'est-à-dire la France et l'Angleterre, contre Hitler? Alors, donc, il y a eu des pourparlers qui ont été ouverts avec Molotov à Moscou pour demander aussi qu'en cas d'attaque allemande contre la Pologne, la Russie intervienne. Et, bon, la Russie était d'accord, mais il lui fallait une part du gâteau, ça veut dire une partie de la Pologne. Les franco-anglais allaient au secours de la Pologne, ce n'était pas pour donner une partie de la Pologne aux Russes. Les Polonais n'aimaient pas beaucoup plus les Russes que les Allemands, et ils n'avaient pas envie de donner de gages ni aux uns ni aux autres. Et finalement, les négociations ont traîné en longueur, alors que la crise polonaise s'éternisait, et que le Reich mobilisait, qu'on était au bord de la guerre. Et alors a eu lieu un coup de théâtre formidable. Hitler a envoyé secrètement à Moscou, alors que les négociations étaient en cours, avec les franco-britanniques à Moscou même, et secrètement, von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Reich, s'est entendu avec Molotov, commissaire du peuple aux affaires étrangères, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères de Staline, et on a appris un beau matin qu'il y avait une alliance militaire entre la Russie et l'Allemagne pour se partager la Pologne. Alors, là, c'était la guerre inévitable, évidemment. Pour faire bonne mesure, Hitler a monté un incident de frontière où il a déguisé quelques-uns de ses soldats allemands en polonais qui sont venus attaquer un poste de frontière allemand, tuant quelques soldats allemands. Alors il a brandi les uniformes polonais, montrant que les Polonais avaient attaqué, etc. Et donc il a déclaré la guerre à la Pologne. Le lendemain, les franco-britanniques déclaraient la guerre à l'Allemagne. Et ce fut la mobilisation, alors très lente dans les démocraties, mais dès le lendemain, sans attendre quoi que ce soit, les nazis passaient à l'attaque de la Pologne sur le front de l'Est, tandis qu'à l'Est, les troupes de Staline attaquaient. Les troupes de Staline ont pris ce qui leur revenait selon le partage qui avait été conclu avec Ribbentrop, se sont arrêtés à cet endroit-là. Et en l'espace de quelques semaines, l'armée polonaise a été liquidée totalement, tant par les Russes que par les Allemands. Vous savez que les Russes n'ont pas fait de détails beaucoup plus que les Allemands. Ils ont froidement assassiné à Katyn tous les officiers de l'armée russe, de l'armée polonaise, en faisant ensuite porter le chapeau ça aux Allemands à Nuremberg. Quand les armées alliées ont été mobilisées, il n'y a plus de Pologne. Donc il n'y a plus raison de faire la guerre, finalement. Et a commencé la fameuse drôle de guerre, qui s'est enlisé presque un an, finalement, on se demandait pourquoi on faisait la guerre, puisque de toute façon, la Pologne n'existait plus. Et alors, ce qui est intéressant, justement, de noter, c'est que le Vatican a laissé froidement assassiner la Pologne, pourtant catholique. Et lorsque les Allemands sont arrivés à Varsovie, Pie XII a proposé une paix honorable, entre guillemets, paix honorable, sur la base d'une Pologne coupée en deux. Il est intéressant aussi de noter qu'après la guerre, donc, où la question de la Pologne a été tranchée définitivement, le Vatican, en 1952, a refusé de reconnaître les nouvelles frontières de la Pologne, et notamment la frontière Oder-Neisse, qui, jusqu'à maintenant, est la frontière entre l'Allemagne et la Pologne. En France, les régimes dictatoriaux restaient le dernier espoir du catholicisme. Et par exemple, l'hebdomadaire La Croix, journal bien pensant, bien sûr, faisait campagne, comme c'est pas possible, en faveur justement d'un régime fort. Lorsque l'effondrement de la France a eu lieu en juin 1940, ces journaux se sont faits en quelque sorte les porte-parole de la collaboration. La Croix, le principal. Immédiatement après vient un journal qui s'appelait Ouest Éclair. Je ne sais pas si ce nom-là vous dit quelque chose. Qui, après la guerre, s'est refait une virginité en se nommant Ouest France, mais qui était un des journaux collaborationnistes de la pire espèce qu'on pouvait trouver en France pendant ces années-là. Et donc, les rédacteurs, d'ailleurs, ont échappé de peu à l'épuration en 1944. Ils ont été inculpés d'intelligence avec l'ennemi. Et Laval, qui était devenu donc premier ministre du nouveau régime, l'État français, vous savez qu'en 1940, au moment de l'effondrement de la France, Pétain, qui était ambassadeur, comme par hasard, ambassadeur de France à Madrid, donc il y avait là-bas des modèles tout à fait parlants, est devenu Premier ministre pour essayer de sauver la France, n'est-ce pas ? C'était les derniers moments des combats. Et finalement, donc, il a annoncé qu'il demandait un armistice à l'ennemi devant l'inutilité des combats. Et donc, le 18 juin, était signé l'armistice à Rétonde, vous savez, dans le fameux wagon qui avait vu la capitulation allemande en 1918. Et là donc, un nouveau régime a eu lieu en France. La France était coupée en deux. La partie nord était tout entière sous domination allemande, administrée directement par les Allemands. Et ce que l'on appelait la France libre, qui était en quelque sorte un état croupion du nazisme, avait comme capitale Vichy. Et là, donc, le Parlement français s'est rassemblé et, à la demande du maréchal Pétain, a accepté de prononcer la dissolution de la République, démocratiquement. C'est pareil, vous voyez, la démocratie, ça sert à tout. Il ne faut pas se leurrer quand on parle de démocratie. Et donc, la République, la Troisième République a pris fin ce jour-là et est né l'État français, à l'image de l'État espagnol, Franco étant le modèle de Pétain, dont le maréchal Pétain était le chef, il avait tous les pouvoirs, exécutifs, législatifs, judiciaires, etc. Et il a eu comme Premier ministre, président du Conseil, Premier ministre, Pierre Laval. Pierre Laval, qui dès 1941 a entrepris une politique active de collaboration avec les nazis en disant qu'il souhaitait la victoire de l'Allemagne. Il faut dire que les Anglais avaient commis une énorme erreur. La flotte française, qui était une flotte parmi les plus importantes du monde, c'était la période où la flotte française a eu son apogée dans toute son histoire, l'entre-deux-guerres, n'est-ce pas, l'avant-deuxième guerre mondiale. Et la flotte française était invaincu en 1940, évidemment, n'est-ce pas ? Et les conditions d'armistice avaient voulu régler la question de la flotte française, et il était donc décidé ceci, que la flotte française resterait désarmée dans ses ports et ne prendrait plus part aux hostilités, et que les Allemands donc respecteraient l'intégrité de la flotte française jusqu'à la fin du conflit. Le chef de la flotte française était à ce moment-là l'amiral Darlan. Et il y avait une partie de la flotte française qui était à Toulon, bien sûr, mais il y avait aussi des navires qui étaient dans l'Empire français, l'Empire colonial français, notamment Dakar, mais aussi, où se trouvait le fleuron de la flotte française, le cuirassé Richelieu, mais aussi dans une des grandes bases françaises en Algérie, c'est l'Algérie, Mersel Kébir. Là se trouvaient donc plusieurs cuirassés, un nombre très important de navires. Et l'Empire français, l'Afrique du Nord en particulier, était évidemment sous la direction de Vichy, ça veut dire n'était pas occupé par l'Allemagne, était en principe neutre, devenait une entité neutre. Mais les Anglais qui luttaient le dos au mur, on était en pleine bataille d'Angleterre, donc après septembre 41, craignaient de voir finalement soit les Allemands faire main basse sur la flotte française et la retourner contre l'Angleterre. Soit même un certain nombre d'officiers français n'avaient pas du tout confiance dans l'amiral Darlan, et avec raison d'ailleurs, voir justement la flotte française se rallier à l'Axe et combattre ses anciens alliés. Et c'est ainsi qu'une escadre britannique s'est présentée en l'automne de 1941 devant la base française de Merzel-Kébir, sous la direction de l'amiral Somerville, commandant la force H, avec un ultimatum. L'amiral Jean Soule, qui commandait la flotte française, avait trois options possibles. Soit se joindre à la flotte britannique et continuer la guerre aux côtés des alliés, soit se rendre dans des ports neutres pour y être désarmé. Troisième solution, si ces deux conditions étaient aux États-Unis, c'était aux États-Unis, donc il devait être dans les ports américains et être désarmé aux États-Unis, soit l'escadre britannique avait ordre d'ouvrir le feu sur le navire français. L'amiral Jean Soule a répondu, il sera répondu à la force par la force. Et donc, à l'expiration de l'ultimatum, les cuirassés anglais ont commencé à tirer sur les navires français qui étaient à l'ancre dans la rade, donc qui pouvaient difficilement évoluer. Et ce fut un véritable carnage. Nombreux navires français ont été coulés, des milliers de marins français ont été tués, finalement pour rien. Churchill avait paniqué, n'est-ce pas ? Il avait donc fait ça. Et alors, évidemment, la propagande allemande a utilisé ça à fond, en disant, bien... Vous voyez, les Anglais, la traîtrise, la perfide Albion, etc. Et les sentiments anti-britanniques qui existent toujours dans la population française se sont donnés cours. L'amiral Darlan, donc, a basculé du côté de l'Axe, ainsi que Laval, et donc a commencé la fameuse entrevue c'était à quel endroit que Hitler a rencontré Pétain ? Montoire, voilà. Et donc, ils ont commencé la politique de collaboration après que Laval ait déclaré « Je souhaite la victoire de l'Allemagne ». Donc la France avait choisi son camp d'une manière, la France dite libre avait choisi son camp à fond. Et donc le régime du maréchal Pétain était un régime catholique. Laval a parlé d'une véritable guerre de religion. La devise de l'État français était « travail, famille, patrie ». Et tout ça basé sur les valeurs catholiques de la France, n'est-ce pas ? La France retrouvera sa grandeur, disait Pétain, et son honneur au travers de la morale chrétienne. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la morale chrétienne aussi est très déconsidérée en France, parce que le souvenir de l'État français, l'État pétainiste, est encore là. Le caractère chrétien, dit encore Pétain, marquera l'ordre nouveau. L'ordre nouveau, c'est-à-dire l'ordre catholique. Et la plupart des cardinaux français, sauf quelques-uns, tels le cardinal Gerlier de Lyon, le cardinal archevêque de Toulouse aussi, plusieurs qui ont pris le parti des Juifs, mais la plupart des évêques catholiques ont pris le parti, évidemment, de l'État français et ont demandé non seulement la déportation des Juifs, mais également le départ de volontaires français pour le front russe à la fin de la guerre. Et il y a eu une légion française, légion des volontaires français, n'est-ce pas, qui ont été d'ailleurs parmi les derniers défenseurs de Berlin. Les derniers à défendre Berlin ont été des volontaires français, des gamins qui avaient certains entre 16 et 18 ans, des choses comme ça. C'était absolument pitoyable. Le maréchal Pétain, après l'attaque de la Russie en juillet 41, a mené une campagne pour aider l'Allemagne dans sa défense contre le bolchevisme. Hein, la croisade anti-bolchevique, et il y a des grandes affiches partout en France, la croisade anti-bolchevique. Alors, on avait plusieurs manières de participer à cette croisade, soit aller combattre, s'engager dans la Légion des volontaires français et combattre sous l'uniforme nazi, soit donner son travail, c'était le fameux STO, service du travail obligatoire. Le slogan était « Ils donnent leur sang, donnez votre travail ». Pour remplacer les jeunes gens allemands qui combattaient sur le front, des jeunes français allaient travailler dans les usines. C'était un véritable esclavage, en fin de compte. Soit donner son sang au travers de transfusions, des choses comme ça, ou de l'argent, etc. Et c'est fou de voir le nombre de Français qui ont répondu à ces appels. Pas pour aller combattre sur le front, ni au STO. On a vite compris que le STO était quelque chose d'un esclavage abominable. Les Français ont tout fait pour s'y soustraire. Pas tant par idéologie d'ailleurs que par, on dirait, autre vision, mais tout simplement parce que l'argent, etc., tout ça, il y a eu un véritable levé en masse. Et quand dire que la France n'a pas été pétainiste, c'est faux. La France a été pétainiste à fond. Donc, On retrouvait les accents de la croisade et il était question de faire l'Europe. Le rêve de l'Europe, c'est pourquoi justement c'est très intéressant de noter que dans les projets de l'Europe actuelle, ce sont les catholiques qui sont à la base justement des projets d'Europe. Maurice Schumann pour la France et Adenauer au lendemain de la guerre, qui étaient des catholiques convaincus. Et les partis de droite pendant la Deuxième Guerre mondiale, rêvaient de faire l'Europe sous la domination allemande. Et l'Europe va se faire sous la domination allemande, c'est évident, là aussi, de nos jours. Voilà donc, si vous voulez, en gros, ce qu'on peut dire pour le moment de cette période, enfin, de cette période de la Deuxième Guerre mondiale. On verra la suite la prochaine fois. Politique vaticane pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous voyez, c'est loin d'être glorieux. Hein. Bien, qui veut poser des questions là-dessus ?